DW. Info Matin.
Nous sommes le lundi 10 mai 2021. Bonjour et merci de nous rejoindre dans la matinale Afrique de la DW. Il est 7h en temps universel, 8h à N'Djamena au Tchad, 9h ici en Allemagne et avec moi dans ce studio pour Info Matin, Sandrine Blanchard. Bonjour Sandrine.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Alors dans l'actualité, le Tchad donc.
Oui, une nouvelle manifestation du mouvement citoyen Wokitama a été réprimée samedi par les forces de l'ordre, mais les contestataires entendent de maintenir la pression.
En République démocratique du Congo, quelques jours après l'instauration de l'état de siège dans l'est du pays, l'armée congolaise affirme avoir mené une offensive contre les rebelles ougandais des ADF. Notre correspondant dans la région, John Kanyunu, nous en dira plus.
Et puis nous parlerons aussi de journalistes enlevés au Mali, mais Info Matin, c'est aussi le sport avec le grand format de Sophie Serbini au menu. La victoire du Bayern Munich a remporté son 31e titre de champion d'Allemagne.
Quant au bulletin d'information, c'est vous, Sandrine Blanchard, qui nous le présentait.
À Jérusalem, de nouveaux affrontements sont signalés ce matin dans l'enceinte de l'esplanade des mosquées. Des fidèles palestiniens affrontent des policiers israéliens. Les manifestants envoient des projectiles en direction des forces de l'ordre qui, elles, utilisent des grenades assourdissantes pour tenter de disperser la foule. Plusieurs centaines de personnes auraient été blessées selon les premiers témoins.
Disparition d'un médecin en Russie. Il faisait partie de l'équipe qui a soigné Alexis Navalny après son empoisonnement.
Alexander Mourakovski, c'est son nom, était devenu entre-temps ministre de la Santé à Omsk, en Sibérie. Il n'est jamais revenu d'une sortie de chasse vendredi. Sa disparition a été confirmée par la police. Une disparition d'autant plus étrange, vous le disiez, que le médecin avait prodigué des soins à l'opposant Alexei Navalny après un empoisonnement à Novichok, c'était l'année dernière. À l'époque, Alexander Mourakovski avait diagnostiqué chez l'opposant un simple trouble de métabolisme. Et à propos de Russie, l'Agence européenne du médicament entame aujourd'hui une visite dans le pays. Ses émissaires doivent inspecter les sites de production du vaccin Sputnik V jusqu'au 1er juin. L'Institut Robert Koch, qui surveille les évolutions de la pandémie de coronavirus en Allemagne, recense environ 7000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, soit 2000 de moins que la semaine dernière. L'incidence globale de la maladie sur 7 jours est de 119,1 cas pour 100 000 habitants, une légère hausse par rapport à hier. Et puis pour clore ce chapitre coronavirus, plusieurs pays commencent à déconfiner. En tête en Europe, l'Espagne qui a levé l'état d'urgence et qui permet à ses habitants de se réunir à nouveau le soir. La France annonce ce matin qu'elle va rouvrir les terrasses et les bars et les restaurants à partir du 19 mai.
Bonne nouvelle donc, une trêve en Afghanistan à l'approche de la fête de fin du Ramadan.
Les talibans ont annoncé une trêve des hostilités pour les 3 prochains jours afin que la population puisse fêter dans le calme la fin du mois de jeûne. Les talibans qui nient être à l'origine de l'attentat qui a tué près de 50 personnes samedi dans une école pour filles à Kaboul. Plusieurs centaines de ces petites filles ont été enterrées hier. Pourtant, tôt ce matin, au moins 11 personnes ont été tuées et 28 autres blessées dans l'explosion d'une bombe. Elle a frappé un autobus dans le sud-est du pays.
Un tueur fou dans le Colorado, c'est aux États-Unis, Sandrine.
Oui, un homme armé a fait irruption à une fête d'anniversaire et tué 6 personnes avant de se suicider. Apparemment, le tueur serait l'ami de l'une des victimes. Et puis des manifestations ce week-end en France contre la politique du gouvernement sur le climat. Une nouvelle loi a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment d'interdire les vols internes afin de privilégier d'autres moyens de transport, comme le train par exemple. La loi introduit également le terme d'écocide, mais de nombreuses autres propositions faites au président Emmanuel Macron par le Conseil citoyen qu'il avait rassemblé ont été rejetées. Parmi ces propositions qui n'ont pas été retenues, la limitation à 110 km/h au lieu de 130 de la vitesse autorisée sur autoroute.
Merci Sandrine Blanchard pour le résumé des dernières nouvelles du monde. Info Matin, il est bientôt 7h05 en temps universel, 9h05 à Walia. C'est l'un des 9 quartiers de la commune du 9e arrondissement de la commune de N'Djamena. La suite du journal.
DW.
Dans l'actualité, le Tchad, où règne un calme précaire après un début de week-end mouvementé, la manifestation organisée samedi à N'Djamena par le mouvement citoyen Wakitama a été réprimée par les forces de l'ordre.
Et Wakitama, ça veut dire « l'heure a sonné » en arabe local. Le mouvement entend poursuivre la mobilisation dans la rue contre le conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, l'un des fils de feu le président Idriss Déby Itno.
Oui, le gouvernement tchadien de son côté, le gouvernement de transition, appelle les initiateurs de ces manifestations à se conformer à la loi. Sur place à N'Djamena, les explications de Blaise Daruston.
Le mouvement Wakitama veut poursuivre la mobilisation dans la rue en dépit de la répression qui s'est abattue samedi dernier sur ses partisans. Au moins 3 personnes ont été blessées, dont une par balle à l'abdomen, et une trentaine de personnes ont été arrêtées, selon les initiateurs de la marche. Mais pour le défenseur des droits humains, Mahamat Nour Ahmad Ibedou, membre de la coordination de Wakitama, il n'est pas question de fléchir.
Les marches, naturellement, vont continuer tant que le CMT continue à s'entêter et de ne pas vouloir s'ouvrir aux vraies forces vives. Pour nous, c'est carrément la continuation, la perpétuation du pouvoir de M. Déby Père. Tout est préparé pour ça. C'est inadmissible que l'on puisse perpétrer ça. Nous n'avons pas d'autre langage, c'est la rue. Tant que nous ne sommes pas impliqués dans le mécanisme pour essayer de garantir une certaine transparence, un certain processus démocratique réel, nous continuerons avec le langage que nous connaissons.
Cette marche réprimée avait pourtant été autorisée au départ, mais le gouvernement tchadien a justifié cette répression par des propos jugés incendiaires de la part des responsables du mouvement Wakitama à la veille de la manifestation. Abderrahmane Koulamallah, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, invite désormais les manifestants à se conformer à la loi.
La manifestation est un droit inaliénable parce que c'est l'expression de la liberté individuelle et collective. S'ils veulent manifester dans le cadre de la loi, on va les autoriser à manifester. Ils n'ont qu'à réfléchir. Il y a un gouvernement consensuel qui se dirige vers un dialogue national inclusif. La nécessité même de manifester est quelque chose d'incompréhensible.
Le gouvernement de transition militaire pose 4 conditions comme préalable à l'autorisation de toute marche pacifique. Il s'agit d'adresser une demande en indiquant l'itinéraire de la marche, signer un engagement, sensibiliser les militants à éviter tout trouble à l'ordre public et présenter un document qui prouve que l'organisation initiatrice de la marche est bien fonctionnelle. Des exigences jugées inacceptables par l'opposition et la société civile. Blaise Dariouston, N'Djamena pour la Deutsche Welle.
Et puis l'armée tchadienne a déclaré hier dimanche que l'opération contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, qui mène depuis un mois environ une offensive militaire contre l'armée, l'opération de ces rebelles du FACT est donc finie et que la situation est revenue à la normale. 156 prisonniers du FACT ainsi que de nombreux véhicules saisis par l'armée ont été présentés à la presse. Je demande aux autorités de respecter leurs droits de prisonniers de guerre et à ceux qui sont encore en rébellion en dehors du pays de rejoindre la légalité pour que ensemble ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique. C'est ce qu'a déclaré Béchir Mahadi, le chef des opérations militaires du mouvement rebelle, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad.
Peu avant, plusieurs centaines de véhicules et blindés de l'armée tchadienne ont regagné la capitale pour célébrer la fin des opérations militaires dans la région du Kanem, à l'ouest du pays. C'est ce qu'a signalé un journaliste de l'agence France Presse. L'armée tchadienne qui a présenté à la presse donc les 156 prisonniers dont vous parliez tout à l'heure.
Et puis pendant ce temps, Abdelkerim Idriss Déby est notre fils du président de FIN, par ailleurs directeur adjoint de cabinet civil de son frère, le président du conseil. Conseil militaire de transition, Abdelkerim Idriss Déby poursuit sa tournée dans les pays de la sous-région de l'Afrique centrale.
Abdelkerim Idriss Déby qui a commencé sa tournée au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Rwanda, au Brazzaville aussi, au Congo. Le but de cette mission, expliquer aux chefs d'État des pays qu'il visite le processus d'une transition qui se veut apaisée et qui promet d'aboutir à des élections libres, transparentes et démocratiques.
Voilà, ce sont les propos, Sandrine. Le plus précisé d'Abdelkerim Idriss Déby. Et puis le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine doit se prononcer sur la situation au Tchad ce matin par visioconférence après avoir dépêché il y a un peu plus d'une semaine dans le pays une mission qui va donc rendre les conclusions de sa mission au Tchad. Et selon une source diplomatique de l'Union africaine jointe ce matin à Addis Abeba, la mission de l'Union africaine préconise que l'organisation africaine déroge exceptionnellement à ses principes et va donc accompagner la transition militaire au Tchad.
Oui, l'UA qui exigerait notamment le respect strict d'une transition de 18 mois maximum, l'organisation d'un dialogue national inclusif qui aboutirait donc sur un partage du pouvoir entre militaires et civils sur le modèle de ce qui s'est fait au Soudan.
Voilà, et pour tâcher d'être tout à fait complet sur ce dossier Tchad, notons que le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, va effectuer ce matin son tout premier déplacement à l'étranger. Il se rendra à Niamey au Niger pour y rencontrer le président nigérien Mohamed Bazoum, qui, il faut le rappeler, a été désigné par ses pairs du G5 Sahel, médiateur dans la crise politique au Tchad.
Et si nos auditeurs veulent réagir, que ce soit l'actualité au Tchad ou ailleurs sur le continent africain ou dans le monde, pas de problème, il suffit pour ça de se rendre sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Vous écoutez Info Matin, il est 7h11 en temps universel et 9h11 à Beni, c'est dans l'est de la RDC.
Oui, l'est de la République démocratique du Congo est entré en vigueur jeudi dernier. L'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une mesure qui avait été prise par le président Tshisekedi pour lutter officiellement contre l'insécurité et les violences dans ces deux provinces. Qu'en est-il quelques jours plus tard? C'est ce que nous dit ce reportage sur place de notre correspondant John Kanyunyu.
Nous avons compté et vu 10 corps des ADF et aussi récupéré 5 armes AK-47.
Le porte-parole de l'armée à Beni, le lieutenant Tony Mwalushai, parle du travail abattu par l'armée congolaise hier dimanche à Alungupa, un village du secteur de Rwenzori, situé à près de 30 km à l'est de la ville de Beni. Outre les 10 morts faits dans les rats des rebelles, l'armée congolaise dit également avoir saisi 2 radios de communication. Ces résultats enregistrés par l'armée contre les ADF au 4e jour de l'entrée en vigueur de l'état de siège est salué par la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori. Son président Meleki Mulala demande à la population de porter main forte à l'armée pour, dit-il, en finir avec les rebelles de l'ADF.
Pendant les jours passés, on pensait que les ADF, ce sont des immortels. Mais cette fois-ci, on commence à compter 2, 10. Donc nous pensons que demain ou après-demain, ça sera 30, 50, 40. Donc nous soutenons vraiment cette prise de position du chef de l'État.
L'armée congolaise s'est dit plus que jamais déterminée à restaurer la paix et la sécurité dans la région de Beni et partout où prévaut l'insécurité. Le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée à Beni.
Nous sommes plus que déterminés pour aller de l'avant et en finir une fois pour toutes. Notre objectif, c'est imposer la paix, donner la paix à notre population et que cette population de Beni se sente vraiment à l'aise de vivre dans une zone où règne la paix.
Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les rebelles ougandais de l'ADF ont accentué les attaques contre les populations de Beni. On multiplia le pillage et les enlèvements. Des opérations militaires conjointes entre les armées congolaises et ougandaises sont également prévues dans la région. Une délégation d'officiers de l'armée ougandaise était ce dimanche à Beni pour des échanges avec des officiers congolais. John Kanyunyu à Butembo pour la Deutsche Welle.
DW.
Info Matin, en Guinée, au moins 15 personnes ont été tuées. C'était samedi dans un éboulement de terrain sur une mine d'or près de Sigiri, hein, c'est dans le nord-est de la Guinée. C'est une roche en surplomb qui aurait provoqué ce éboulement dans la localité de Tatakourou en se détachant pour des raisons indéterminées pour l'heure, selon diverses versions recueillies donc sur place.
Oui, les éboulements sur les sites aurifères sont fréquents et là, c'est souvent meurtrier en Guinée. Et en particulier dans cette région qui est proche du Mali.
Des morts et des blessés également, justement au Mali, hein, précisément au nord. Samedi, 2 civils ont été tués et 5 blessés lorsque leur camion a sauté sur une mine artisanale. La dernière victime en date de ces engins dans ce pays, le Mali, qui est donc confronté, vous le savez, à des violences djihadistes depuis 2012-2013.
Nous en parlions la semaine dernière. Un journaliste français a été enlevé, Olivier Dubois, mais 2 journalistes maliens sont également actuellement entre les mains de groupes djihadistes.
Alors, question Sandrine, comment ces personnes travaillent lorsqu'elles se rendent sur le terrain, alors qu'elles sont confrontées à des enjeux différents que les journalistes internationaux? On écoute le témoignage de leurs proches qui ont été recueillis donc par Paul Lorgerie, notre correspondant à Bamako.
J'ai été stoppé à coups de balles réelles sur ma voiture. Et je me suis arrêté. Tout de suite, j'ai obtempéré.
Amadou est journaliste. Il y a quelques années, de retour chez sa famille, il se fait stopper par des hommes armés.
Il était des hommes armés qui étaient enturbanés et qui tout de suite m'ont amené dans la savane. Une fois arrivé, au lieu de détention, voilà, on a commencé à m'interroger sur mon identité et sur ce que j'étais venu faire ici.
Il passera quelques mois entre les mains d'un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. S'il s'en est sorti sain et sauf, certains de ses confrères demeurent emprisonnés par des groupes armés au Mali. 2 pour être plus précis. Car les journalistes maliens travaillent de chez eux, au sein de leur communauté, comme l'explique Bandiougou Danté, président de la maison de la presse à Bamako.
Le Mali est un pays d'un journalisme de proximité. L'information est essentiellement donnée par la radio, et lesquelles la radio sont implantées dans la communauté.
Un travail de terrain à réaliser avec précaution. Hors micro, un journaliste d'une ville du centre raconte ses multiples voyages hors de la ville avec des hommes enturbanés, lui demandant notamment d'arrêter de traiter certaines informations.
Quand vous êtes homme de médias dans une localité et qu'on peut venir vous enlever, vous faire des remontrances, ensuite vous libérer, ça montre à quel point tu es exposé.
Dans certaines zones sensibles, en effet, les journalistes peuvent donc parfois se restreindre, museler leurs paroles pour continuer à travailler. Ce que constate Abdul Majid Thiam, représentant de Reporters sans frontières à Bamako.
Je ne peux pas dire que c'est une volonté générale des journalistes de faire de l'autocensure, mais je pense que les gens de plus en plus réfléchissent par 2 fois avant de s'engager.
Selon l'ONG de défense des journalistes, le Mali se trouve à la 99e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse en 2021. Une position qui est bien plus due à l'insécurité qu'à un pouvoir central, qui laisse les journalistes travailler comme ils l'entendent. Paul Lorgerie, à Bamako, pour la Deutsche Welle.
Avant de retrouver Sandrine Blanchard et l'extrait de son magazine Droits et Libertés, encore un bilan macabre. 3 personnes, des civils essentiellement, ont été tués et 3 soldats blessés. C'était samedi, lors de 2 attaques distinctes dans le nord du Burkina Faso, qui est aussi en proie à des attaques djihadistes. Voilà, comme promis, on va retrouver donc Sandrine Blanchard et l'extrait de son magazine consacré aux vraies femmes africaines, et c'est une rediffusion.
Cette semaine, dans Droits et Libertés, on donne la parole à une Ivoirienne, Bintou Mariam Traoré. Elle a créé le hashtag « Vraies femmes africaines ».
Même dans la lutte pour les indépendances, il y avait des femmes des armées, il y avait des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Je dis que ce n'est pas nouveau, mais comme je dis, on a changé de paradigme. Non, je pense déjà qu'il faut déjà une histoire.
Droits et Libertés, c'est le mardi et le jeudi à 17h, temps universel sur la Deutsche Welle.
Voilà, ne ratez pas ce magazine.
C'est 17h30, temps universel, bien sûr. Que dis-je ?
17h30, temps universel.
Le mardi et le jeudi, 17h30.
Un rendez-vous à ne pas manquer, surtout que voilà, il s'agit de vraies femmes africaines, même si toutes les femmes sont vraies, Sandrine.
Toutes les femmes sont vraies, sans doute, oui, africaines ou pas.
D'accord, ok. Voilà, on va passer à l'actualité sportive avec Sophie Serbini.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Voilà, Sophie, en Bundesliga, le championnat de football allemand, les années passent, mais le Bayern Munich reste le seul maître à bord. Samedi, le Rekordmeister a remporté son 31e titre de champion d'Allemagne, le 9e d'affilée.
Le RB Leipzig ayant chuté sur la pelouse du Borussia Dortmund un peu plus tôt dans l'après-midi, le Bayern Munich était déjà officiellement champion au moment de fouler la pelouse de l'Allianz Arena samedi à 18h30 heure locale. Cela n'a pas empêché les hommes d'Hansi Flick de prendre au sérieux cette rencontre face au Borussia Mönchengladbach et de livrer une des meilleures performances de la saison. Une victoire impressionnante, 6 buts à 0, notamment obtenue grâce à une nouvelle performance XXL de Robert Lewandowski. Le Polonais a ajouté 3 nouveaux buts à son total de la saison. Avec 39 réalisations alors qu'il ne reste que 2 matchs à jouer, l'attaquant se rapproche du record de Gerd Müller. Lors de la saison 1971-1972, Der Bomber avait inscrit 40 buts. À l'issue de la rencontre, Hansi Flick a évoqué une victoire de champion, tandis que Thomas Müller a lui souhaité souligner le caractère incroyable de cette série. 9 titres consécutifs, c'est quelque chose qui requiert des capacités mentales et physiques exceptionnelles, selon le vice-capitaine du Bayern.
9 mal in Folge, das ist natürlich schon verrückt.
Remporter le titre 9 fois de suite, c'est complètement fou. Et en plus, j'ai été de la partie à chaque fois. Je suis très reconnaissant d'avoir ce physique, c'est ce qui m'a permis de jouer au football pendant cette période, c'est phénoménal. Chaque année, nous faisons de nouveau face à une énorme quantité de travail, chaque année, nous y mettons beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, mais il se trouve aussi que chaque année, nous avons une grande équipe.
Du côté de Leipzig, le principal concurrent du Bayern Munich toute la saison, l'heure était évidemment à la déception. Face au BVB, les hommes de Julian Nagelsmann ont mal commencé, encaissant 2 buts avant l'heure de jeu. Mais grâce à une baisse de régime du Borussia Dortmund et à quelques errements défensifs, Leipzig a réussi à revenir à hauteur du BVB. C'est finalement Jadon Sancho dans les dernières minutes de la rencontre qui a permis aux hommes d'Edin Terzic de remporter la rencontre 3 buts à 2 et donc de sacrer le Bayern Munich. Pour le Borussia Dortmund, ces 3 nouveaux points glanés leur permettent de grimper à la 4e place au classement et de ravir provisoirement la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions à Francfort, tenue en échec de son côté par Mayence. Surtout, selon Edin Terzic, cette victoire obtenue au mental prouve que son équipe est dorénavant très soudée et peut réaliser n'importe quel exploit.
Quand on voit les buts que nous avons marqués, il y a Erling Haaland, Jude Bellingham et Dan-Axel Zagadou qui ont célébré en tribune. C'est beau et c'est d'autant plus beau quand c'est le but de la victoire en toute fin de match. Ces dernières semaines, nous nous sommes trouvés en tant que groupe, nous travaillons bien ensemble. Il n'y a qu'à voir les victoires que nous avons obtenues ces derniers temps. Par exemple, nous avons gagné à Wolfsburg alors que nous étions à 10 contre 11. En demi-finale de Coupe d'Allemagne contre Kiel, nous avons marqué rapidement et nous avons gardé d'un rythme soutenu. Et puis il y a cette victoire contre Leipzig avec un but dans les dernières minutes. Cela nous permet d'engranger de la confiance en nous. Nous ne savons pas encore comment nous allons aborder la prochaine rencontre, mais en tout cas, nous sommes prêts.
Et Dortmund et Leipzig se retrouveront jeudi soir en finale de la Coupe d'Allemagne. Dans le bas du classement, la bataille continue de faire rage. Défait par Fribourg 4 buts à 1 à domicile, Cologne occupe toujours la 17e place avec 29 points. Bielefeld, auteur d'un match nul 0 à 0 face au Hertha Berlin, est actuellement 16e et donc barragiste avec 31 points, tout comme son adversaire du soir, ainsi que le Werder Bremen qui n'a pas pu faire mieux que 0 à 0 contre le Bayer Leverkusen. Même Augsbourg, 13e avec seulement 33 points, est loin d'être tiré d'affaire. A noter que de tous ces clubs, le Hertha Berlin semble être le mieux placé pour rester dans l'élite puisqu'il compte un match en moins que ses adversaires directs.
Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo, bah c'est dans 74 jours seulement, donc ça approche à grands pas. Et malgré la pandémie qui continue de faire rage un petit peu partout sur le globe, un état d'urgence sanitaire qui a été même prolongé au Japon et une opposition de la population locale, le CIO ainsi que le gouvernement japonais continuent d'être fermes. Non, les JO ne seront ni annulés ni même reportés.
Ils étaient un peu plus d'une centaine de manifestants anti-JO ce dimanche devant le stade olympique de Tokyo. Une centaine d'athlètes, tous ayant été testés négatifs au préalable, étaient réunis dans l'enceinte vide de spectateurs pour participer à un événement test. Un événement qui, selon le groupe de contestataires, est le signe que les JO auront bel et bien lieu, et ce malgré la réticence de la population japonaise. Pour Kumito Suto, employé dans une maison d'édition, il est tout simplement incroyable que le gouvernement japonais n'écoute pas ses citoyens.
J'ai été surpris par le nombre grandissant de personnes qui sont contre les Jeux Olympiques, mais je suppose que cela reflète la gravité de la situation. Pourtant, les Jeux Olympiques sont apparemment impossibles à annuler. Cela me laisse sans voix, vous savez.
Depuis un an et l'annonce du report de la compétition, la population japonaise est devenue de plus en plus hostile à la tenue de ces JO. Selon les sondages effectués chaque mois par les plus grands organes de presse du pays, les Japonais pensent que cette compétition est dangereuse d'un point de vue sanitaire, mais surtout trop coûteuse, une opinion partagée par Takashi Sakamoto, employé de manutention.
Il y a une pandémie en cours et j'aurais espéré que l'argent soit plutôt dépensé pour les soins médicaux ainsi que pour l'aide aux pauvres qui ont besoin d'un logement et de nourriture. Même avant la pandémie, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à s'acheter à manger et qui se sont retrouvés sans abri. La pandémie n'a fait qu'aggraver les choses.
Malgré les protestations, le Comité international olympique, appuyé par le gouvernement japonais, continue de tout mettre en œuvre pour que les JO se déroulent sans problème. Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, présent à Tokyo ce week-end pour l'événement test, a assuré lors d'une conférence de presse que toutes les personnes concernées par l'organisation des Jeux olympiques prenaient la situation très au sérieux.
Ce que je dirais en tant que président de l'IAAF, c'est que nous prenons ces préoccupations très, très au sérieux. Les protocoles Covid, notamment ceux développés par ma fédération au cours de la dernière année et demie, par des équipes scientifiques extrêmement douées dans ce domaine, ont constamment contribué à organiser des événements dans un environnement sûr et sécurisé.
Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochain.
Une actualité qu'on va bien évidemment suivre grâce donc à nos collègues de la rédaction sportive. On va retrouver Sophie Serbini ce soir dans le journal de 17h en temps universel pour un autre point de l'actualité sportive. Alors Sandrine, puisqu'on a un peu de temps, on va parler esclavage.
Oui, avec en France la journée annuelle de mémoire de l'abolition de l'esclavage et de la traite des humains. C'était il y a à peu près 170 ans, au 19e siècle. Mais ça fait aussi 20 ans environ qu'une loi a été adoptée en France qui considère, qui pénalise l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et cette loi, on la doit à Christiane Taubira, qui était ministre à l'époque. Et l'AFP publie ce matin une interview, un entretien avec Christiane Taubira. Et j'aimerais vous citer brièvement ce qu'elle en dit. Voilà. Incontestablement, les traces de l'esclavage sont là, dit Christiane Taubira, dans les esprits, dans les mentalités, dans les mécanismes institutionnels. Pourquoi ? Parce que ça a forgé la société, toutes les sociétés européennes, y compris celles qui n'avaient pas de façade atlantique. Et elle poursuit, les effets de cette histoire sont là, ils sont vraiment pesants. Il y a des gens qui peuvent vivre en bavardant de ça, mais il y a des gens, ça les prend à la gorge tous les jours, ça détermine leur quotidien, ça balaie leur chance, ça pèse sur leur destinée. Ils savent bien, eux, que ce n'est pas une vue de l'esprit.
Voilà, c'est une journée mémorable, donc pas seulement en France, hein, puisque l'esclavage, on sait comment ça a été. Et pour le déplorer en Afrique, hein, cette forme d'esclavage, en fait plusieurs formes d'esclavage persistent toujours, notamment en Mauritanie. Voilà, Info Matin, nous sommes, il est bientôt 9h28 sur la pendule murale de notre studio. C'est donc le terminus de ce journal. Alors Sandrine Blanchard, avant de rendre l'antenne, vous avez beaucoup de temps d'ailleurs hein, pour nous rappeler les grands titres de l'actualité de ce jour.
Et bien, nous avons beaucoup parlé du Tchad dans ce journal puisque le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, est attendu aujourd'hui au Niger où il doit rendre visite au président Bazoum qui a été désigné par ses pairs médiateurs dans la crise tchadienne. L'Union africaine, elle, doit rendre les conclusions de son rapport fort après la visite de la délégation il y a une dizaine de jours au Tchad. Et puis l'armée tchadienne a présenté ce week-end la défaite des rebelles du FACT. À suivre donc, nous reparlerons du Tchad sur notre site internet et dans le journal de 17h TU. Nous avons également évoqué au Mali les difficultés que rencontrent les journalistes dans les zones de guerre. Et puis en RDC, fait un point sur la situation dans l'Est, 4 jours après l'instauration de l'état de siège.
Voilà, pour un lundi, l'actualité est bien dense, hein, il faut le noter. Merci beaucoup Sandrine Blanchard de m'avoir accompagnée donc, à présenter cette édition d'Info Matin. Je vais vous quitter sur ce proverbe africain, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits.
C'est excellent. Joli et les fleurs, ça fane rapidement.
Rapidement, donc faites attention Sandrine. Hein.
Je préfère les fruits qui portent des graines.
C'est ça. Bonne chance à vous. Allez, bonne journée à toutes et à tous et restez fidèles au reste de nos programmes. Tchuss.
Tchuss.